franceinter.fr.
À la une de la science aujourd'hui, la découverte au Kenya de ce qui pourrait être les plus vieux outils du monde et qui nous renvoie, c'est une première à l'époque des Australopithèques.
Nos regards se tournent vers une femme. Une femme qui pourrait bien être notre grand-mère. Cette femme, c'est Lucie.
Et Lucie, effectivement, célèbre Australopithèque, est-ce qu'elle aurait pu avoir entre ses mains, il y a 3 millions d'années, des outils qu'elle aurait fabriqués elle-même? À la une, donc, aujourd'hui, les plus vieux outils au monde, découverts au Kenya, une révélation, presque une révolution, que viennent d'annoncer des chercheurs français et new-yorkais à l'occasion d'un colloque annuel de paléontologie. C'est à San Francisco que ça s'est passé. Des outils en pierre vieux de 3,3 millions d'années, fabriqués, utilisés donc par les ancêtres du genre Homo. Et pour comprendre vraiment l'importance de ces éclats de pierre taillé. On vous reçoit aujourd'hui David Pleurdeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste des techniques des premiers hommes. Et puis par téléphone, depuis Toulouse, on a le plaisir de vous retrouver. José Braga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléoanthropologue et professeur à l'université Paul Sabatier. Alors David Pleurdeau, qu'est-ce qu'ont découvert justement vos collègues Hélène Roche et Sonia Armand près de ce lac de Turkana au Kenya?
Avant tout, il faut préciser peut-être que c'est encore pas publié justement et que on attend avec impatience la publication.
Il y a eu des fuites.
Et il y a eu des fuites. Donc pour le coup, je suis pas à San Francisco, donc je n'ai pas vu la présentation. Hein. C'est ça de faire l'impasse des fois sur des gros colloques. Mais a priori de ce qui a fuité, il y a quelques infos. Ouais. Mais bon, on peut pas dire encore grand chose puisque il faut les voir. Moi, j'attends avec beaucoup d'impatience. Mais il s'agit vraisemblablement en effet d'outils, c'est-à-dire des éclats ou des morceaux extraits par la main d'un hominidé avec des tranchants pour s'en servir naturellement. Donc des éclats, des enclumes aussi, puisque c'était une technique très employée pour casser et fracturer ces galets et ces morceaux de roche. Et bon, alors et c'est surtout révolutionnaire, en effet, c'est 3 300 000, ça serait en effet 700 000 ans avant ce qu'on croyait être les premiers outils auparavant.
Donc ça, c'est une petite révolution, effectivement, en attendant la publication qui va arriver dans les semaines qui viennent. José Braga, alors, c'est vrai que l'outil, jusqu'à maintenant, était attribué donc au genre humain, c'est ça? À quelle période on considérait jusque-là, justement, l'apparition de l'outil?
Oui, on a toujours associé l'homme à l'outil et figurez-vous que les plus vieux humains que l'on pensait avoir trouvé il y a encore quelques semaines dataient de 2,5 millions d'années et effectivement les plus vieux outils semblaient avoir le même âge. Or, il y a quelques semaines, les plus vieux humains, leur âge a été reculé jusqu'à 2,8 millions d'années. Mmh. Il est donc intéressant de voir qu'effectivement des outils pourraient également accompagner ces plus vieux humains.
Oui. Comment vous interprétez vous cette publication qui est vraiment quelque chose d'important, hein? Il faut bien comprendre ce qui se passe là. Hein?
Oui, je la trouve très intéressante parce que le monde des Australopithèques que vous évoquiez tout à l'heure est un monde très très vaste qui s'étend dans le temps sur plus d'un million d'années. Plus d'un million d'années, et Lucie est l'une des dernières représentantes de ces Australopithèques qui vont disparaître en Afrique de l'Est aux alentours de 3 millions d'années. Mmh. Donc ces Australopithèques de 3 millions d'années, tels que Lucie, sont des presque humains, alors que leurs prédécesseurs aux alentours de 4 millions d'années sont des pas du tout humains. Et donc ces outils associés à des Australopithèques presque humains, finalement, ne sont pas très très surprenants si on souhaite absolument associer l'homme à l'outil.
Ouais, alors justement, Axel, hein, on met beaucoup de guillemets quand même aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas la publication. Hein,
encore. Non. L'information provient d'un journaliste de la revue Science qui a assisté à la présentation de la Société américaine de paléoanthropologie. Les travaux sont à paraître dans la revue Nature et les Françaises Hélène Roche et Sonia Armand n'ont pas le droit de parler du tout.
Il y a un embargo.
Embargo, c'est la règle. J'ai quand même discuté avec Hélène Roche, écoutez-la.
Nature veut garder l'exclusivité de la publication. Vous pouvez présenter scientifiquement, devant une audience scientifique de collègues, votre travail, mais pas d'interview dans la presse. On ne peut pas en parler. Nous, en tant qu'auteurs du papier et découvreurs de la chose, on ne peut pas en parler. C'est comme ça. C'est un peu compliqué tout ça.
Voilà, c'est quand même très frustrant, hein, David Plordeau. Vous les connaissez, hein, ces scientifiques. Ouais. Hélène Roche est archéologue et co-découvreuse de ces outils. Donc tout le monde est en train de commenter cette publication qui n'est pas encore sortie. Mais parce qu'évidemment, là, il se passe quelque chose d'important.
Très, très important. Oui. Et comme le disait José très bien et très justement, pendant des décennies, on a associé l'homme à l'outil. Il fait même partie un peu de la, ouais. Il participe de la définition de l'homme.
C'est
donc
ça.
Forcément, depuis très longtemps, on rêve de trouver, on rêve ou on rêve pas, suivant, mais on rêve de trouver des outils associés à l'Australopithèque.
Et on les aurait trouvés.
On les aurait trouvés. Alors le problème, naturellement, toujours, c'est qu'on l'a pas trouvé dans la main de l'hominidé qui les a fabriqués. Mais en tout cas, en effet, mais il y avait déjà quelques fissures hein, depuis quelques années pour penser que la naissance des outils était antérieure. À ces 2,6 millions d'années.
Ouais. Donc là, on est vraiment dans un changement de paradigme.
Ouais.
Axel.
Les auteurs ont quand même des soupçons hein, sur l'auteur de ces outils. Ils parlent de Kenyanthropus pletops. Qui est-ce alors, José Braga? C'est un Australopithèque?
Oui, alors, Kenyanthropus pletops fait partie de ce monde des Australopithèques au sens très très large du terme. Et il fait partie des trois candidats que l'on suspecte à l'heure actuelle comme étant les ancêtres de notre genre, le genre humain. Et ces Australopithèques Kenyanthropus platyops, on les trouve effectivement au Kenya, dans la région où ont été trouvés les outils, et ils ont 3,5 millions d'années. Donc à la fois géographiquement et chronologiquement, ils semblent assez bien correspondre à ce qui a été trouvé par l'équipe d'Hélène Roche et de Sonia Armand.
David Plordeau, justement, puisque vous êtes un spécialiste des techniques préhistoriques, comment étaient fabriqués ces outils? Qu'est-ce qu'on en sait? Parce qu'apparemment, ce sont des centaines d'outils qui ont été retrouvés au même endroit.
Des centaines, là encore, on ne sait pas bien, mais a priori plusieurs dizaines, et voire une centaine d'outils. Alors j'attends justement de voir, puisqu'on ne les a pas vus ces premiers outils, mais ceux d'avant, ceux qu'on pensait déjà les plus anciens, hein, 2,6 millions d'années, étaient déjà finalement beaucoup plus élaborés qu'on ne pensait, et que les différentes étapes pour produire des éclats et des tranchants, des galets qu'on va aménager. Toutes les étapes étaient il y avait beaucoup d'étapes, beaucoup plus d'étapes qu'on ne pensait et que la chaîne opératoire, comme on a l'habitude de parler, était beaucoup plus longue qu'on ne pensait auparavant. Donc c'est pour ça aussi que déjà à 2,6 millions d'années, trouver des outils qui étaient le fruit d'une anticipation, d'une prédétermination et d'une chaîne opératoire qui était assez longue, laissait présager que probablement avant 2,6 millions d'années, il y avait peut-être des outils plus simples.
Ouais.
Et donc là, à voir maintenant à 3,3 millions d'années,
on voit qu'il y avait une organisation très particulière quand même autour de ces outils.
De ces outils, naturellement. Et puis les outils sont aussi le témoin d'un accès probablement à une alimentation carnée, plus carnée qu'auparavant.
Ouais, donc, mais c'est presque une chaîne de fabrication, en fait. Hein.
C'est une chaîne de fabrication qui reste assez courte, hein, qui évolue naturellement encore au cours du temps. Mais
déjà, c'est déjà une sophistication.
Déjà une sophistication.
Pour ces Australopithèques.
On pourrait parler de complexité technique.
Ouais. José Braga, qu'est-ce que ça nous dit, justement, sur le mode de vie de ces Australopithèques?
Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Cette fabrication d'outils avec cette chaîne opératoire, cette sophistication dans la conception d'un processus qui va conduire à un outil qui finalement est absolument se rend complètement indispensable, doit être liée à la fois à des modifications biologiques, mais aussi à une structuration sociale très différente. On sait par exemple que les premiers représentants du genre humain et donc quelque chose qui a vécu dès 3 millions d'années devait avoir une enfance déjà prolongée par rapport aux Australopithèques qui les précèdent. Et cette enfance prolongée a certainement permis à ces presque humains d'apprendre pendant plus longtemps et d'être capable ensuite d'avoir un apprentissage suffisant pour pouvoir fabriquer des outils qui devaient nécessiter quand même un apprentissage très très long.
Allez, découverte donc de ces outils, attribués donc à Australopithèque, 3,3 millions d'années, bouleversement dans l'histoire humaine et préhumaine donc. Et on attend cette publication avec beaucoup d'impatience dans les semaines qui viennent. Ce sera dans la revue Nature et co-signée par deux Françaises.
Et peut-être qu'on entendra Hélène Roche.
On l'invitera avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup David Plordeau et José Braga pour vos explications cet après-midi.
Merci.
Allez, puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, on sait enfin pourquoi nos articulations craquent. Jusqu'à aujourd'hui, on pensait que c'était l'éclatement des bulles de CO2 qui occupaient l'espace entre les os qui causait ce bruit, mais ce sera en fait l'inverse. Des scientifiques canadiens et australiens ont observé grâce à une IRM en temps réel que c'était la formation des bulles au moment où les deux os se frottent qui causait ce son de craquement. Il reste aux chercheurs encore à expliquer pourquoi ce son est si fort. Un fossile exceptionnel de celui qu'on appelle l'oiseau de terreur. Il vivait il y a 40 millions d'années. C'était sans doute l'un des plus dangereux prédateurs de l'époque. Il pouvait atteindre 2 à 3 mètres de haut, jusqu'à 200 kilos. Un fossile comportant 90% des os de son squelette a été retrouvé sur une plage en Argentine. Découverte extraordinaire qui va aider à comprendre la diversité et la vie quotidienne de ces oiseaux, ainsi que leur extinction. Et puis le vapotage passif exposerait également à la nicotine. Ce sont les conclusions d'un rapport de l'Institut norvégien de santé publique publié hier. Les niveaux de nicotine ambiant observés en cas de vapotage seraient similaires à ceux liés à la consommation de cigarettes. Mais le rapport rappelle quand même que la cigarette classique contient plus de 4000 substances toxiques et que vapoter peut aider certains fumeurs à mettre fin à leur dépendance.